Merci de rester avec nous dans Au cœur de l'islam.
Nous allons faire des émissions en direct.
Talab al-ilm faridatun ala kulli muslimin.
Et par extension wa muslima.
Est-ce qu'il faudra tirer ces références des savants de sa région?
Nous sommes tenus d'être musulmans et non d'être des malékites. La connaissance est celle des anciens. Mimouna ta'arf rabbi wa rabbi ya'arf mimouna. Mimouna kent jahad. Mimouna n'était pas une traître.
Il est considéré comme le guide des musulmans, ce qui inclut le dernier monothéisme.
Vous avez des coranistes, c'est une secte. Vous avez les hadathiyin, les modernistes, qui visent à annuler tout ce corpus que nous appelons sunna mutahara sahiha. Le vrai croyant s'occupe de sa foi, le mauvais s'occupe de celle des autres.
C'est notre propos sur Alger Chien 3 depuis que l'on a commencé à disserter autour de tous les éléments qui constituent une bonne base pour la pratique claire et correcte de l'islam. Au cœur de l'islam, c'est tous les vendredis à 5h et à 14h sur Alger Chien 3 et sur la page x.com. Au cœur de l'islam, Chien 3.
Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Shekat et Bouchra Yahya.
Madame, Monsieur, bonjour, Salam Azoul, merci d'être au rendez-vous de Au cœur de l'islam pour le premier numéro de la saison 2026-2027. Et nous reprenons cette belle aventure pleine de sens et de conscience par la célébration de la naissance du meilleur des fils d'Adam. Et quelle belle opportunité pour ouvrir la nouvelle année radiophonique dans ce contexte précis. Alors, lahumma aftah alayna futuh al-arifin wa jazi anna sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma huwa ahluh. Salam alaykoum Kamal Shekat.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Et que cette nouvelle année soit empreinte et teintée de l'amour de Sidna Rasulullah et de sa noble famille alayhum afdal salawat. Alors Kamal Shekat, dans quelques jours, les réseaux vont s'enflammer de débats stériles au sujet du bien fondé de la célébration de la naissance du meilleur des fils d'Adam, celui qui a régi le monde durant un petit court ou laps de temps, par oui. L'amour. L'amour a été son fil conducteur et son credo avec tout le monde, avec les humains, avec les animaux, avec les anges, avec la nature aussi, même dans l'adversité, selon certaines lectures. Oui. Mais il se trouve qu'au-delà de cette question à laquelle les humains désappointés, désillusionnés et manquant de perspicacité et d'intelligence n'ont pas encore tranché. Alors un certain Ahmed al-Bousili, un grand savant égyptien, nous dit que Dieu Ta'ala l'a déjà célébré. Donc a célébré le prophète Sidna Rasulullah Khalil Ar-Rahman bien avant qu'il ne soit envoyé comme messager. Lisez avec moi Kamal Shekat et essayons de l'expliquer ce verset de la sourate Al-Imran, le verset 81. Alors Dieu dit: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ.
Oui, et lorsqu'Allah, donc je lis ici la traduction de Kshrid, et lorsqu'Allah a pris cet engagement des prophètes: chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devez lui porter secours. Il leur dit: consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition. Et là, les messagers dirent: nous consentons, soyez donc témoins, dit Allah, et me voici avec vous parmi les témoins.
Parmi les témoins, Dieu, subhanahu. Oui.
Naam.
Ce verset, Kamal Shekat, c'est une sorte d'alliance, un pacte établi avec les messagers et les prophètes.
Absolument.
Pour soutenir Sidna Rasulullah, le prophète.
Pour lui, plus précisément, mais c'est une chose qui s'est concrétisée. Par exemple, vous avez Sidna Yahya, alayhi salam, Jean le Baptiste ou Jean-Baptiste, qui a confirmé la prophétie de Jésus, alayhi salam. Jean-Baptiste n'a pas contester la prophétie de Sidna Isa, alayhi salam. Et les juifs, auraient dû accepter justement cette prophétie, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont carrément tué Jean-Baptiste. Mais nous avons déjà, je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand nous avons cité ou quand nous avons parlé de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les écritures anciennes, nous avons des traces dans l'Ancien Testament qui attestent de cela. Il y a eu un pacte de ce genre où Allah subhanahu wa ta'ala s'adressait à tous les messagers disant qu'un messager va venir et qu'il va falloir lui porter secours, confirmer son apostolat. Ce qu'ils ont accepté justement, et nous avons le pacte primordial qui concerne tous les fils d'Adam, et nous avons ce pacte qui est beaucoup plus restreint, qui concerne essentiellement les prophètes,
notamment le pacte de Jacob, alayhi salam. Oui. Mais c'est quelque chose de mémorable, on en avait d'ailleurs parlé dans une de nos émissions.
Absolument.
Il avait réuni tous ses fils, les enjoignant à s'adosser, à s'aligner à Sidna Mohammed
al-Islam,
alors qu'il était encore très loin, qu'il n'était pas encore envoyé, il n'était pas encore né.
Oui. Le Shiloh, comme le dit la Bible.
Oui. Donc, Kamel Shekat, ici, c'est l'engagement pris par tous les prophètes d'appuyer et de croire en ce dernier messager qui clôturera le cycle sacré de la prophétie, une alliance soulignée par Dieu dans la sourate Al-Imran.
Mais qui confère justement à Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cette importance parmi tous les prophètes et messagers qui ont été envoyés à l'humanité.
Mais c'est une bid'a de célébrer sa naissance chez les humains, Kamel Shekat.
Écoutez, ça fait maintenant plus d'une décennie, moi-même, enfin, parmi bon nombre de personnes, nous avons essayé de mettre en garde contre cet islam judaïsé qui nous est venu des pays du Golfe. Un islam qui a été fondé, forgé par les services secrets britanniques, avec un certain Mohammed ben Abdel Wahhab, qui a été discrédité autant par son père que par son frère, Sulayman ben Abdel Wahhab, signalant que son père
savant.
Et son frère étaient des savants, des érudits. Et lui, il était considéré par son frère comme étant un dévergondé. Oui, ensuite, cette mouvance ou cette secte a été menée par un certain Jami, dont on sait maintenant qu'il était juif, un juif
d'Éthiopie,
un falacha, comme il leur plaît d'être appelé. Ensuite, c'est un certain Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, un ignare de première, mais ignorant de chez ignorant, attention. D'ailleurs, Bakr Abu Zayd, qui était un savant reconnu en Arabie Saoudite, l'a remis une fois en place en disant comment celui qui était classé 102e à 104e dans sa promo peut-il parler de ceux qui étaient premiers et deuxièmes de leur promo, en parlant de deux grands savants qui sont Safar al-Hawali et Salman Fahd al-Ouda. C'est un islam judaïsé qui est beaucoup plus proche des enseignements du Talmud que de l'islam ou de toute autre religion ayant un semblant d'humanité ou étant porteuse d'un semblant d'humanité. Donc maintenant, ceux qui nous disent que c'est une bid'a, c'est une innovation, ces gens-là avancent un certain nombre d'arguments parmi les tout derniers, signalant que ces gens-là ont des représentants dans notre pays.
Malheureusement.
Tous ceux qui représentent justement cette mouvance ne sont même pas en mesure de tenir quelques minutes dans une confrontation. D'ailleurs, vous savez, l'une des caractéristiques de ceux qui sont derrière cette mouvance, c'est que leur point fort, c'est de lancer des polémiques. Mais ils ne seront jamais là pour défendre leurs principes. Si moi je disais que l'ihtifal bin Maulid bid'a, je viendrais et j'exposerais mes arguments. Absolument. Vous savez, quand j'ai commencé la télévision avant la radio, et déjà en 2004, etc., je disais aux gens, voilà, écoutez, le Maulid en tant que fête religieuse, nous n'avons que deux fêtes religieuses en islam, Eid al-Kbir et Eid al-Sghir. Mais je disais, le Maulid en tant que fête a été institué par les Fatimides. Ceci pour parler de le Maulid, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que fête religieuse. Il n'y a pas de fête. Mais célébrer le Maulid, comme le faisait Jam'iyat al-Ulama al-Muslimin pendant la période coloniale, on ne disait pas Eid al-Maulid, on disait Dhikr al-Maulid. Nous célébrons la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne la fêtons pas. Et donc ceux qui s'en contre vous diront, mais attendez, comment pouvez-vous fêter le 12 de Rabi' al-Awwal, naissance du messager de Dieu, alayhi salatu salam, alors qu'il est mort un 12 de Rabi' al-Awwal. Et l'islam, la nuhi al-ma'atim, nous n'avons pas le droit de célébrer les dates de décès. D'accord. Alors, Que dites-vous de ce hadith qui nous parle de Adam alayhi salam et qui nous dit que khayru yawmin tala'at alayhi ash-shams yawm al-jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila al-jannah wa fihi ukhrija minha. Le fait que qu'Adam ait été chassé du paradis, et là encore, signalant que le paradis dont nous parlons ici, nous ne savons pas, il y a divergence chez les savants musulmans. S'agit-il du paradis qui est promis aux vertueux et aux gens pieux le jour de, après la résurrection, ou s'agit-il tout simplement d'un jardin délicieux, une dimension qui ne fait pas partie...
Autre que le jardin édénique.
Oui, qui ne peut faire partie justement de cette terre, du monde physique tel que nous le connaissons. Le fait qu'Adam ait été chassé du paradis. Nous avons un hadith, Hajja Moussa Adam. Moïse a contesté Adam en disant c'est par ta faute que nous sommes sortis, que le genre humain a été chassé du paradis. Donc le fait qu'Adam ait été chassé du paradis, c'est un jour de deuil normalement. Et pourtant, ceci n'a pas diminué de la portée du jour du vendredi. Khayru yawmin tala'at alayhi ash-shamsu yawmul jumu'ah. Ça veut dire que le meilleur jour qui voit se lever le soleil, c'est le vendredi. C'est en ce jour-là qu'Adam a été créé, c'est en ce jour qu'il est entré au paradis et qu'il en est sorti. Donc le fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit mort un 12 de Rabi al-Awwal, qui est le jour même de sa naissance, ne rend pas illicite ou ne fait pas du fait de se commémorer cette naissance du messager de Dieu, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, une innovation. Je suis désolé pour vous. Nous avons aussi une multitude d'arguments que nous pourrions placer. En tout cas, nous, dans notre vision, je parle quand je dis nous, je parle des musulmans lambda, de tous les musulmans. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un fait marquant qui s'est accompagné d'un certain nombre de ruptures de l'habitude. Il s'est passé énormément de choses. Entre autres, nous avons le feu des Mazdéens ou des Zoroastres qui s'est éteint en Perse, fait qui ne s'était jamais produit auparavant. Ça veut dire que cette naissance du messager de Dieu alayhi sallam a été un moment qui a été vécu non pas à l'échelle de la planète, mais à l'échelle de toute la création. Même les anges ont été témoins de tout cela.
Ouais.
Est-ce qu'on pourrait passer sous silence cette naissance du messager de Dieu alayhi sallam?
La bid'a finalement, Kamel Shekat, serait de ne l'évoquer qu'une fois durant toute une année.
Bien sûr. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais écoutez, c'est un jour où les familles se réunissent autour d'un repas et c'est là l'occasion de parler justement du prophète. Ça n'est pas forcément ce qui est souhaité en religion, parce que célébrer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une chose qui se fait tout au long de la vie, pas uniquement tout au long de l'année. J'ai oublié quel est le nom de ce compagnon qui, le messager de Dieu alayhi sallam, passe devant lui, il le voit, Shahib al-Wajh, il était pâle, qu'est-ce qui te prend? Il dit, que messager de Dieu, quand je suis avec toi, je suis aux anges, je suis heureux. Et dès que je te quitte, je sombre dans une sorte de mélancolie et de tristesse.
Thauban,
et là,
le Thauban. Noir.
Et là, c'est encore pire parce que j'ai su que le jour du jugement dernier, tu es promis à un endroit qu'on appelle Maqam al-Mahmoud. Je n'aurai donc plus l'occasion peut-être de te voir. Et c'est là que Dieu a révélé ce fameux verset où l'aïka ma'a...
Wa ma yata'i allaha wa rasool fa ulaïka ma'a ladina na'ma allahu alayhi min al-nabiyyin wa siddiqina wa shuhada'i wa salihina.
Merci de me le rectifier.
Wa hasuna ulaïka rafiqa. Dhalika al-fadlu min Allahi wa kafa billahi alima.
Donc ça lui a rendu...
Et comment? Ça redonne de la vie.
Oui, de la vie. Vous imaginez, donc, célébrer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui se fait tout au long d'une vie.
De façon continue.
Oui, mais le fait justement de célébrer cette naissance ou de la commémorer ne va aucunement à l'encontre des préceptes de l'islam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a vu que les juifs jeûnaient le jour de Ashura, il a dit « Ana ahqu bi Moussa minkum, je suis plus digne de Moïse que vous ». Il a jeûné, ordonné que l'on jeûne le jour de Ashura, ça s'est fait pendant 2 ans jusqu'à ce que le jeûne du mois de Ramadan soit institué. Le messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, jeûnait le lundi. C'est le jour de ma naissance. Lui-même commémorait sa naissance de manière hebdomadaire. Bien sûr, ceci, le hadith, on ne peut pas prendre ce hadith comme argument pour instituer quelque chose. Mais en tout cas, même si nous sommes d'avis que la naissance du prophète n'est pas une fête, parce que nous sommes une religion qui ne fait pas du tout dans le culte de la personnalité, quand oui. bien même il s'agirait de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
La preuve, la date de l'Hégire,
oui.
le démarrage.
Oui, le démarrage, c'était pas Safar qui était le mois même de l'Exode, et ce n'était pas la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais en tout cas, avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, avec toutes les intox, toute cette politique visant à discréditer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, honnêtement, nous n'avons pas le droit de faire ça. Et ceux qui sont derrière cette campagne, il y a 10 ans, quand je disais dans les différents médias, il s'agit d'un islam judaïsé, c'est un islam qui a été forgé par les ennemis de l'islam juste pour le vider de sa substance, ça paraissait bizarre. Mais maintenant, avec tout ce que nous voyons à Gaza, en Palestine, et oui. la position de ces barbouzes, excusez le terme, maintenant, nous savons à qui nous avons affaire. Nous avons affaire à des pro-juifs, à des pro-israéliens. Nous avons affaire à des suppôts de Satan.
Comme Shakat Dieu subhanahu dans la sourate Al-Fath nous dit « Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'aziruhu wa tuwaqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila » À qui s'adresse-t-il dans ce verset, Dieu subhanahu?
Il s'adresse à la communauté de l'islam, à la communauté des croyants. Ils ont ce devoir que de préserver, maintenant,
de croire
déjà en Dieu, de croire
en son prophète,
de lui porter aide et assistance, de l'honorer, de le respecter.
Tasbih ici, c'est pour qui?
Ça, c'est pour Dieu.
D'accord. Ce qui concerne le prophète, c'est de croire en lui. Que veulent dire ces deux mots, tu'aziruhu wa tuwaqiruhu?
C'est-à-dire lui porter aide et assistance s'il en a besoin, être l'un de ses supporters et aussi le respecter, le chérir, le préserver, comme l'ont fait les gens à Médine, les musulmans de Médine, l'Ansar. C'était des supporters.
Durant sa vie, comme Al-Shakat.
Oui, absolument.
Par la suite.
Par la suite, Dieu dit, wa rafa'na laka dhikrak, c'est-à-dire nous avons préservé ou perpétué ta renommée à travers les âges.
Autant qu'il l'a fait pour le dhikr, pour
oui,
le Coran.
Et là, nous sommes dans l'obligation de préserver l'honneur, la dignité du prophète, sallallahu alayhi wa
sallam. Vous pensez qu'il a besoin de nous?
Absolument. Comme j'ai l'habitude de le dire à mes proches, Dieu a fait sa part, à vous de faire la vôtre.
Si on arrive à le faire, c'est bénéfique pour nous,
bien
parce
entendu.
Que le prophète n'en a pas besoin.
De toute manière, même Dieu n'a pas besoin de notre effort, mais nous sommes dans l'obligation de le faire.
Il faut témoigner de la gratitude à Dieu
oui.
pour ce présent qu'il nous a offert.
Absolument, absolument.
Que dit le prophète dans un des hadiths, que tous les prophètes étaient des dons pour leur peuplade,
oui.
mais lui était un cadeau. Lui, كان هدية للأمته.
Je n'ai pas ce qu'on dit متن الحديث
oui.
en tête, mais ça va dans ce sens. Mm. Ce qui est sûr, c'est que une fois, il y a un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de sa personne en tant que brique venue parachever un édifice, labina. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça.
Suivons Kamal Shakat avec les versets du Coran au sujet de Sidna Rasulullah. Nous avons la sourate Al-Ma'ida, le verset 15 qui dit « Qad ja'akum min Allahi nourun wa kitabun mubin ». Plus loin dans la sourate Al-Ahzab, « Ya ayyuhal nabiyu inna arsalnaka shahidan wa mubashira wa nadira wa da'iyan in Allahi bi'idnihi wa siradun munira
oui. ».
Versets 45 et 46. Dans la sourate Al-A'raf, le verset 157, « Falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa attaba'u nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun ». Qu'est-ce qu'il faudra tirer de ces versets que Malchikat? Il y a Nour et Sirat qui reviennent constamment.
Oui, il était porteur d'une lumière qui est la lumière de la guidance. C'est ce qui caractérise un prophète par rapport à ses congénères.
C'est la lumière qui devrait nous conduire vers la grande lumière.
Oui, la lumière en elle-même, ça peut être la lumière de la guidance, c'est aussi la lumière du savoir, la lumière de la science. C'est tout ça qui a été ramené par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, vous savez, le problème que nous avons actuellement, c'est que les premiers ont su cerner la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont su tirer parti de toute cette science, ce savoir inhérent à la connaissance même de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Personnellement, je parle de ma petite personne, j'ai beaucoup plus apprécié Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers les écrits orientalistes, ce qui m'a poussé justement à écrire témoignages impartiaux. Le problème est là, le problème c'est que vous avez des gens qui ne sont pas musulmans et qui ont ce regard décalé qui vous dévoile des facettes de cette personnalité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que bon nombre de musulmans n'ont pas pu cerner, n'ont pas pu capter. Vous savez, quand vous lisez le livre, par exemple, de Karen Armstrong, mm-hmm. « Mohammed, prophet for our time », « Mohammed, un prophète pour notre époque », elle a concentré son travail sur deux choses. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour combattre l'ignorance et la pauvreté. Deux choses qui vous émancipent à tout point de vue. Et ma foi, quand vous avez affaire à quelqu'un qui fait ce travail, vous ne pouvez en aucun cas le taxer de gourou ou bien l'accuser de vouloir embrigader les gens, les façonner sur le plan mental, faire du brainwashing, ça ne colle pas du tout. Et c'est ce qui a été fait par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ma foi, les grands noms de la pensée universelle en ont témoigné. Et malheureusement, nous avons actuellement des gens, même ici en Algérie, des ignares de première, qui maintenant, nous les voyons sur les réseaux sociaux, se permettent de temps à autre de fustiger Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant n'importe quoi, juste comme ça me rappelle un film western dont le titre était « Pour une poignée de dollars ». Nous avons des gens dans notre société qui font ça pour une poignée d'euros, malheureusement. Et le problème, c'est que ceux qui se sont érigés en dépositaires de la tradition prophétique, ces fameux wahhabites et j'en passe, sont les premiers qui portent atteinte, qui mettent à mal justement cette personnalité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si l'on se contentait d'essayer d'analyser ou de comprendre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers le prisme de ces gens-là, de leurs pensées, de leurs actions, l'islam dans sa globalité ne vaut pas du tout le coup. C'est pour cela qu'il va falloir faire énormément d'efforts. Nous sommes comme nous l'avons dit pendant les trois dernières années, nous sommes à l'avènement du gouvernement de Lucifer et ma foi, les attaques contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam deviendront de plus en plus fréquentes, acerbes, concentrées. Il va falloir faire ce travail.
Il faut le faire disparaître, c'est cela?
Oui, absolument. Ouais. Maintenant, il faut le faire passer pour un mythe, il faut le faire passer pour une mauvaise personne, entre guillemets. L'idée de Mohammed le criminel, le sanguinaire, l'amateur de bonne chair, le pédophile, maintenant ça y est, on a tout.
Mais la reconnaissance Kamel Chekat et la défense vient de parmi eux, de parmi leurs congénères. Partons des propos de Karen Armstrong, et ben voyons la situation dans laquelle nous vivons. L'idée conductrice de son livre est que Sidna Mohammed est venu combattre l'ignorance et la pauvreté. L'ignorance, elle fait loi de nos jours. La pauvreté, nous sommes sous le dictat des BlackRock et du club ultra riche de Davos.
Bien sûr.
Près de 1500 ans nous séparent de l'avènement de ce grand homme, du prophète dans le monde d'ici-bas. Tout au long des âges, les gens doués d'intelligence et de conscience l'ont célébré sans qu'ils ne soient convertis à l'islam. C'est la même chose que vous disiez il y a quelques minutes, des noms illustres que nous avons évoqués dans plusieurs de nos émissions.
Oui.
Alors, je voudrais citer quelqu'un qui a excellé dans la description et l'analyse de ce qu'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, oui. Mahmoud Abbas al-Aqad, dans son fameux Abqariyat Mohammed.
Oui.
Alors il écrit « Innahu azimun fi mizan al-din, wa azimun fi mizan al-ilm, wa azimun fi mizan al-shu'ur, wa azimun inda man yakhtalifuna fi al-aqaidi, wa la yasa'uhum an yakhtalifu fi al-taba'i al-adamiya. »
Permettez-moi de traduire, donc allez-y.
« Innahu azimun fi mizan al-din. »
Il est grand, littéralement, sur la balance de la religion. Donc, il est grand du point de vue religieux ou spirituel.
وَعَظِيمٌ فِي مِزَانِ الْعِلْمِ.
Il est grand si l'on se fie à la science, au savoir tout court. Il est grand sur le plan, on va dire, émotionnel. Il est grand même auprès de ceux qui divergeraient sur le plan doctrinal ou religieux. Parce que, vous savez, et là, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de grands penseurs qui ont travaillé justement sur ça.
Goethe.
Non, même des ennemis acharnés de l'islam, hein, si vous prenez quelqu'un comme William Muir,
oui,
qui a écrit The Life of Muhammad après la débâcle de Karl Gottlieb Pfänder en 1845 à Accra, lors d'une confrontation avec Rahmatullah al-Hindi. Muir, qui était un évangéliste de première, a écrit un certain nombre de livres sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où il est revenu justement sur la sincérité de cet homme, sur sa clairvoyance. Et il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. Énormément de grands penseurs qui ont travaillé là-dessus. Et qui ont démontré que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait une vision qu'on pouvait considérer comme structurée, équilibrée, sur tout ce qui concernait les questions existentielles.
Vous faites rappeler, Kamal Chekat, le maître à penser de Goethe von Herder.
Oui.
Un des grands noms des Lumières, oui, allemandes, qui sont différentes, bien sûr, des Lumières françaises.
Son fameux... Le
chant de Mahomet, le divan oriental.
Le divan oriental,
et
il y a le Mohammed Gesangt, qui est une pièce,
ouais,
théâtrale qu'il a écrite.
Celle de Voltaire traduite?
Non, ça n'est pas du tout celle de Voltaire. Voltaire, c'est autre chose. Mais Voltaire, comme nous l'avons déjà expliqué...
Ce qu'il a osé écrire, c'était une guerre ouverte contre l'Église.
Contre l'Église. Et
ouais,
d'ailleurs, quand l'Église s'en est rendue compte, ils ont interdit sa pièce. Sa pièce, ouais, n'a été jouée à Paris ou en France qu'à deux ou trois reprises, pas plus. Ensuite, elle a été rejouée plus tard en Hollande. Et il l'a dit, cette pièce n'était pas faite pour les esprits français, parce que l'esprit français, c'est un esprit sclérosé, qu'on le veuille ou non. Et je l'ai démontré à la fin de mon livre, L'Islam et l'Orientalisme. La dernière attaque qui a été organisée ou orchestrée par ce torchon qui s'appelle Charlie Hebdo, nous avons une ministre française qui disait: dans le pays de Voltaire, nous avons le droit de médire des religions et...
La martiniquaise, hein, la fameuse,
oui, oui,
garde des Sceaux.
Oui, la pauvre, elle a démontré qu'elle était plus ignare que ses congénères qui faisaient ces petits politicards à la française. Le problème, c'est que voilà, Voltaire n'était pas du tout dans ce registre. Voltaire a fait un travail où il a démontré que voilà, Mohammed vous dépassera toujours de loin. Et tous ceux qui ont fait justement ce travail sur Mohammed avec un minimum d'intégrité intellectuelle, ils sont arrivés justement à ce résultat. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un grand homme, qu'on le veuille ou non.
Kamal Chekat, Anaïs Masso, directrice d'édition, et qui a fait une lecture sur une chaîne musulmane française, parlait de ce fameux livre qui est en fait une biographie de Goethe. Le titre du livre, c'est « Sous ses pieds naissent les fleurs, Goethe sur le chemin de l'islam ».
Oui.
Alors, il y est raconté dans ce livre que une fois Goethe demandait le conseil à son maître à penser, lui demandant de lui parler d'une œuvre qu'il devrait lire.
Oui.
Alors, son fameux mentor lui avait donné le Coran.
Oui.
En lui posant la question « Pourquoi le Coran ?» Alors
Herder
répond que dans ce livre, il y a tout ce dont une personne devrait connaître au sujet de l'humanité et même de la création.
Oui.
Des gens qui n'étaient pas musulmans, Kamal.
Écoutez, dans ces entretiens avec Eckermann, ça a fait l'objet d'un livre. Goethe était sur son lit de mort. Eckermann, c'est l'une des dernières personnes à avoir côtoyé Goethe. Et à un moment donné, il dit à Eckermann, il dit de la doctrine musulmane, vous voyez que rien ne manque à cette doctrine. Avec tous nos systèmes, il parle ici des systèmes de pensée, nous ne sommes pas allés plus loin. Et personne d'ailleurs peut y aller ou peut aller plus loin. Personne ne peut le faire. Bien sûr, attention, vous trouverez cette citation traduite en arabe où il dit « Inna ahlul gharbi bi kulli mafahimina lam nasil ila ma wasala ilayhi Muhammad ». C'est faux. Parce que je me souviens le jour où, quand j'étais en train d'écrire ce livre, je cherchais justement cette citation et je ne la trouvais nulle part. Il a fallu que je télécharge le livre en allemand pour pouvoir justement trouver cette citation et la traduire. Vous voyez que rien ne manque à cette doctrine. Il ne parle pas de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il parle de l'islam de manière générale. Avec tous nos systèmes, nous ne sommes pas allés plus loin et personne d'ailleurs ne peut aller plus loin. Donc c'est les conversations de Goethe pendant les dernières années de sa vie, recueillies par Eckermann, traduites par Émile Delroux, un certain Émile Delroux. Donc
citation de l'Aqad.
Allez-y.
عظيم عندما يختلفون في العقائد ولا يسعهم ان يختلفوا في الطبائع الادميه.
Oui, ils peuvent diverger ou être divergents concernant les doctrines, les différentes doctrines, mais ne peuvent être divergents sur les natures de l'humanité ou des hommes.
On continue avec la citation de Mahmoud Abbas al-Aqad dans son fameux Abqariyat Muhammad. Il ajoute « Fama makan wa hadhihi al-azama fi at-tarikh ».
Quelle est la place de cette grandeur dans l'histoire ?
« Ma makanuha fi al-alam wa ahdathihi al-baqiya ala ta'aqub al-usur ». مكانها في التاريخ أن التاريخ كله بعد محمد صلى الله عليه وسلم متصل به مرهون بعمله.
Il pose la question, quelle est la place ou quelle est la teneur de cette grandeur à travers l'histoire.
Oui.
Ensuite, qu'est-ce qu'il dit ?
مكانها في التاريخ أن التاريخ كله بعد محمد صلى الله عليه وسلم متصل به مرهون بعمله.
Ça veut dire que finalement cette grandeur, elle est en lien avec justement sa personne à travers toute l'histoire. Ce qui veut dire que quand vous analysez ce qui se passe dans le monde ou bien tout ce à quoi est arrivée l'humanité, vous vous rendez compte que tout va vous relier à un certain Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci me fait rappeler le témoignage de Michael Hart, qui est un astrophysicien. Dans son fameux 100 First, il dit « Certains lecteurs seront peut-être surpris de me voir placer Mohammed en tête des personnalités ayant exercé le plus d'influence dans le monde. Et d'autres contesteront probablement mon choix. Cependant, Mohammed est le seul homme au monde qui ait réussi par excellence sur les deux plans, religieux et séculier. D'origine modeste, Mohammed a fondé et propagé l'une des plus grandes religions. Il est devenu un grand leader politique. Aujourd'hui, 13 siècles après sa mort, bon, bien sûr, le livre a été écrit dans les années 70, son influence est toujours aussi forte et présente.
Ça résume,
c'est un non-musulman qui est resté non-musulman.
Il n'a pas mis Jésus en haut du podium.
Et justement, on lui a posé cette question et voici sa réponse. Cela pourrait paraître surprenant de prime abord de voir Mohammed placé avant Jésus sur cette liste. Parce que Jésus, alayhi salam, ne prend que
la huitième place. Oui.
Il dit donc, mais il y a à cela deux principales raisons. Premièrement, Mohammed a joué un rôle dans le développement de l'islam qui est plus important que celui joué par Jésus dans le développement du christianisme. Bon, moi je dirais c'est normal. Jésus a apporté, est venu avec l'islam, pas avec le christianisme. Le christianisme c'est Paul de Tarse. Même si Jésus est la principale source des préceptes éthiques et moraux du christianisme, dans la mesure où ces préceptes diffèrent de ceux du judaïsme, c'est à Saint Paul que revient le développement de la théologie chrétienne et l'expansion du christianisme. Il est également l'auteur de la majeure partie du Nouveau Testament. Il dit également, il est probable que l'influence de Mohammed sur l'islam a été plus importante que l'influence conjointe de Jésus et de Saint Paul sur le christianisme. Il dit ensuite, pour donner une idée de la dimension de Mohammed, paix et bénédiction sur lui, certains faits majeurs de l'histoire auraient pu se produire sans l'intervention des leaders qui ont contribué à leur concrétisation. Voyez là, ça c'est un point très très important. Ça veut dire que certains faits de l'histoire auraient pu se faire sans la présence de, par exemple, de Che Guevara, sans la présence de Mandela. Il aurait pu y avoir un certain nombre de faits en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, sans la présence de ces grandes...
Dans l'Empire britannique.
Oui.
On assimile Cromwell à Mohammed.
Oui. Donc, beaucoup de choses auraient pu se passer ou se produire sans la présence ou l'action des gens à qui on attribue tout cela. Mais il dit, par exemple, les anciennes colonies d'Amérique du Sud auraient pu avoir leur indépendance d'Espagne sans même que Simon Bolivar ait pu exister un jour. Mais ceci ne peut être dit des conquêtes arabes. Nous ne parlons pas en fait de conquête, nous parlons de futuhat. C'est un concept nouveau qui est venu. Et ensuite il dit « Rien de tel n'a été accompli avant Mohammed et tout indique qu'elle n'aurait pu s'achever sans lui. » Ce qui vous donne le caractère unique de cette personnalité qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Eh bien, Kamal Chakat, il abonde dans le même sens que Mahmoud Abbas
l'Aqad. Oui.
Alors, je vous lis le texte en bloc, après, faites-nous une petite traduction, s'il vous plaît, Kamal Chakat.
Allez-y.
Alors, فما مكان هذه العظمة في التاريخ ما مكانها في العالم وأحداثه الباقية على تعاقب العصور.
Quelle est donc la place de cette grandeur à travers les événements qu'a connu l'histoire?
مكانها في التاريخ أن التاريخ كله بعد محمد صلى الله عليه وسلم متصل به مرهون بعمله وأن حادثا واحدا من أحداث الباقية لم يكن ليقع في الدنيا كما وقع لولا ظهور محمد وظهور عمله.
Donc rien de ce qui s'est produit par la suite n'aurait pu se faire sans la présence de ou sans la sans la présence ou l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
وظهور عمله.
Oui.
Il continue. فلا فتوح الشرق والغرب ولا حركات أوروبا في العصور الوسطى ولا الحروب الصليبية ولا نهضة العلوم بعد تلك الحروب ولا كشف القارة الأمريكية ولا مساجلة الصراع بين الأوروبيين والأسيويين والأفريقيين.
Oui.
ولا الثورة الفرنسية وما تلاها من ثورات ولا الحرب العظمى التي شهدناها قبل بضع وعشرين سنة ولا الحرب الحاضرة التي نشهدها ولا الحرب الحاضرة التي نشهدها في هذه الأيام ولا حادثة قومية أو عالمية مما يتخلل ذلك جميعه كانت واقعة في الدنيا كما وقعت لولا ذلك اليتيم الذي ولد في شبه الجزيرة العربية بعد 571 سنة من مولد المسيح كان التاريخ شيئا فأصبح شيئا آخر توسط بينهم وليد مستهل في مهده بتلك الصيحات التي سمعت في المهود عداد من هبط من الأرحام إلى هذه الغبراء ما أضعفها يومئذ صيحات في الهواء ما أقواها بعد ذلك أثرا في دوافع التاريخ ما أضخم المعجزة وما أولانا أن نؤمن بها كلما مضت على ذلك المولد أجيال وأجيال وما أغنانا أن نبحث عنها قبل ذلك بسنين حيثما بحث عنها المنجمون والعرافون. L'histoire aurait été autre sans l'avènement
sans l'avènement de Mohammed. Parce que tout ce qu'il a initié comme réforme à l'époque où il était venu visait à apporter un bien à ceux qui croyaient en, autant à ceux qui croyaient en Dieu qu'à ceux qui étaient incroyants, autant aux Arabes qu'aux non-Arabes, l'Ajam. Et la chose ne visait pas à apporter un bien ponctuel à ceux qui vivaient avec lui, mais à apporter un bien en continu.
C'est
sur le plan pratique, Omar ibn al-Khattab, qui, après la conquête de la Perse, Ardu Sawad, on en a déjà parlé, les gens viennent, ils vont invoquer un verset de Sourate Al-Anfal qui leur donne le droit, en termes de butin, au cinquième des terres conquises. Il dit non, il s'oppose à un décret coranique, à un décret
Allah
divin.
Akbar.
Et les gens ne comprennent pas. Il se rabat sur les versets 7 à 10 de Sourate Al-Hashr qui parlent de fate. Nous sommes dans le domaine de la gestion de l'après-guerre. Et à ce moment-là, il leur dit non, je préfère laisser. Il veut pas, il voulait pas créer une caste de féodaux musulmans. Non, non. On va laisser ça à tous les musulmans. Donc ceci vaudra pour tout le monde jusqu'à la fin des temps. Vous savez, Voltaire disait le mahométisme, c'est-à-dire l'islam, était sans doute plus sensé que le christianisme. On n'y adorait point un juif en abhorrant les juifs, parce que les chrétiens, essentiellement les Européens, ils adoraient, ils ont versé dans l'adoration de Jésus en tant que divinité, tout en méprisant et en abhorrant les juifs. Il y a une haine viscérale à l'encontre des juifs. On n'y appelait point une juive mère de Dieu, on n'y tombait point dans le blasphème extravagant de dire que trois dieux font un dieu. Enfin, on n'y mangeait pas ce dieu qu'on adorait. Il fait allusion à l'Eucharistie. Croire en un seul Dieu tout-puissant était le seul dogme. Et si on n'y avait pas ajouté que Mahomet et son prophète, c'eût été une religion aussi pure, aussi belle que celle des lettrés chinois. Bon, Voltaire contestait le fait de cette shahada, il la comprenait pas. Comme nous la comprenons, nous, qui connaissons en quoi elle consiste, il voyait en cela une forme de polythéisme, en quelque sorte. C'est comme si on associait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la personne de Dieu dans cette vision que nous devrions avoir de Dieu et de la religion de manière générale. Ce qui n'est pas le cas. Donc, il est vrai que cette venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un point crucial, un tournant de l'histoire qui a changé radicalement un grand nombre de choses et ce changement s'opère jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que, par exemple, là, à l'heure actuelle, la référence, c'est le monde occidental, c'est l'européen. Eh bien, tout ce qui pourrait être chanté par les Européens leur vient justement de l'Orient. Il leur vient plus précisément de cette Arabie qui a vu la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Il y a certes pour vous dans le messager de Dieu le meilleur des modèles. Pour qui désire Dieu et l'au-delà et se souvient de Dieu intensément.
Absolument.
Nous ne parlons que rarement de la vie intérieure du prophète Sidna Rasulullah et pourtant sa relation avec tout le monde a été d'abord une relation d'amour. Sans amour, je pense que nous ne pourrons pas le suivre, être alignés à son message. Dans le hadith, il est dit « La yu'mina ahadukum »
« Hatta akuna ahabba ilayhi » min nafsihi wa malihi
wa
waladihi. Donc nul d'entre vous ne croirait ou ne croira réellement jusqu'à ce que je sois plus aimé de lui. Oui, c'est alors il parle de la fortune, des parents, de la progéniture. Et à un moment donné, il dit même, c'est-à-dire que ça veut dire que même dans le fait de se fier à ses passions, il devrait être conforme à ce qui a été initié ou apporté par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est une position très très délicate, hein, surtout à l'heure actuelle.
Un grand auteur théologien écrivait, Kamashakat, que l'amour du prophète est un travail de soi à soi, que c'est l'amour qui donne sens à sa mission, le messager, un miroir dans lequel les cœurs et les consciences font face aux défis de notre époque.
Oui.
S'observer, s'étudier et s'initier aux questions de l'heure, de l'être et du sens au regard de notre alignement au prophète est capital pour nous aujourd'hui. Kamashakat, dans un hadith, le prophète, alayhi salam, demandait, un hadith rapporté par Anas, le prophète poser la question à ses compagnons, quelle créature d'Allah à la fois la plus étonnante? Ils ont dit, les anges. Le prophète a leur répondu, les anges, comment ne croiraient-ils pas? Ils ont dit, les prophètes. Le prophète a rétorqué, les prophètes reçoivent la révélation, comment ne croiraient-ils pas? Ils ont dit, les compagnons. Le prophète a encore dit, les compagnons sont avec les prophètes, comment ne croiraient-ils pas? Plutôt les gens qui ont la foi la plus étonnante sont des gens qui vont venir après vous et vont trouver un livre de la révélation, ils vont y croire, ils vont le suivre. Ceux-là sont les gens qui ont la foi la plus étonnante, des gens qui n'ont pas connu Mohammed, qui n'ont pas été irradiés par sa lumière, par son savoir, par son amour, par sa bonté, par sa générosité. Les musulmans d'aujourd'hui préfèrent parler des victoires de Sidna Rasulullah.
C'est ça qui me tue par moments.
C'est ça le plus grand problème des musulmans, des arabes aujourd'hui, c'est le manque d'amour.
C'est, vous savez, nous ne travaillons pas assez justement sur cette fibre qui est l'amour. Les prophètes, justement, ils avaient cela en eux, c'est-à-dire qu'ils étaient porteurs d'amour pour tout leur congénère. Même leurs ennemis, leurs pires ennemis, ils ne voulaient que leur bien, c'est-à-dire les sauver du feu de la géhenne le jour du jugement dernier. Là, nous sommes dans un schéma qui est contraire à tout cela. Par exemple, je me souviens de cette anecdote racontée par Cheikh Sharawi, rahmatullahi alayhi, qui a discuté avec un homme.
Le disciple de Mohammed Belkaïd.
Oui, un terroriste, je ne sais pas si on peut appeler cela un terroriste, en tout cas un criminel, qui est allé placer une bombe devant une taverne. Et il lui dit, maintenant, si la bombe avait explosé, qu'est-ce que ça aurait fait? Et l'autre, tout fier, lui dit, ça aurait envoyé tout ce beau monde en enfer. Et là, il lui dit, mais attends, le propre même de la mission d'un prophète, c'est d'essayer de faire en sorte que tout le monde aille au paradis et non en enfer. Ce qui me rappelle ce fameux hadith du messager de Dieu,
alayhi salam,
qui disait à ses compagnons, mon image est la vôtre et celle de quelqu'un qui a allumé un feu le soir. Les criquets et les papillons se mirent à y tomber, cependant qu'ils cherchaient à les en écarter. C'est ainsi que moi-même je vous retiens par le fond de votre culotte pour vous éviter de tomber dans le fond, tandis que vous échappez de ma main. Vous voyez, donc c'est ça, c'est essayer de sauver le maximum de gens. C'était ça, c'est Et ça, si ça n'est pas de l'amour, de l'empathie, de la compassion pour le genre humain, qu'est-ce que ça pourrait être? La base même du sentiment qui anime ces gens-là, c'est l'amour de l'autre et l'amour pour l'autre.
Je voudrais vous citer, Kamel Chekat, des passages du livre « Mohammed, vie du prophète, les enseignements spirituels et contemporains » d'un certain Tariq Ramadan,
oui,
qui écrivait dans sa biographie du prophète « Il a su exprimer et répandre l'amour autour de lui. Ses épouses furent comblées par sa présence, sa tendresse et son affection, et ses compagnons l'aimaient d'un amour intense, profond et extraordinairement généreux. Appartenant à Dieu, il n'était la possession de personne et offrait son amour à tous, simplement et avec simplicité. Quand il donnait sa main à un individu qui le saluait, il ne la retirait jamais le premier. Oui. Et il savait la lumière et la paix qui peuvent jaillir dans le cœur d'un être à qui l'on offre un mot tendre qui le rassure, un nom affectueux qu'il apprécie, un réconfort auquel il aspire. Des détails, les choses de la vie, libérées de son moi, il négligeait le moi de personne. Sa présence était un refuge, il était l'envoyé. La justice est une condition de la paix et le prophète ne cessait de rappeler qu'il est impossible de goûter au parfum de l'équité si l'on ne sait respecter la dignité des individus. Il libérait les esclaves et recommandait que les musulmans s'y engagent de façon permanente. La communauté de la foi des croyants devait être une communauté d'êtres libres. La révélation lui montra la voie. Il ne cessa, nous l'avons vu maintes fois, de prêter une attention particulière aux esclaves, aux pauvres et aux laissés pour compte de la société. Oui. Il les invitait à affirmer leur dignité, à exiger leurs droits et à se départir de tout complexe. Le message était un appel à la libération religieuse, sociale et politique. Les riches et les pauvres, les femmes et les hommes de toutes les races, de toutes les cultures et de toutes les couleurs étaient là. Ils l'écoutaient et ils écoutaient ce message affirmant que le meilleur d'entre les hommes l'est par le cœur, que ne détermine ni la classe, ni la couleur, ni la culture. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur pour les hommes, avait-il confié un jour.
Vous savez, William Weir, qui était un évangéliste de première, disait « Ce qui a le plus caractérisé Mahomet, c'est le degré de considération qu'il accordait à ses adeptes, même les plus humbles d'entre eux. Ouais. L'humilité, la charité, la patience, l'abnégation et l'hospitalité étaient ses traits de caractère. Ceux qui l'approchaient étaient attirés par lui. Il détestait dire non, et quand il ne pouvait accéder à une requête, il préférait se taire. » Quand on fait une analyse de ce qui a été dit, par exemple, par Margoliot, de ce qui a été dit par Watt, de ce qui a été dit par Bernard Lewis sur le messager de Dieu, on peut placer William Weir dans un registre qui est le sien. C'est-à-dire qu'en dépit du fait que lui-même cherchait par moments à discréditer l'islam dans son ensemble à travers les études qu'il avait faites sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas pu s'empêcher de dire certaines vérités et de marquer justement ou de mettre l'accent sur ce caractère qui animait toute l'action de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je citerai un autre témoignage. Il dit « Mahomet n'entreprenait jamais quelque chose sans l'achever. Ainsi fut sa relation avec les autres. Quand il s'adressait à quelqu'un, il ne se contentait pas de tourner la tête en sa direction. C'était de tout son corps qu'il lui faisait face. Quand il serrait, pour reprendre ce que vous aviez dit, quand il serrait la main à quelqu'un, il n'était jamais le premier à retirer sa main, ni le premier à clore la discussion, ni même le premier à détourner la tête de son interlocuteur. Sa vie était d'une simplicité totale. Il avait l'habitude de tout faire par lui-même. Quand il donnait une aumône, il la mettait dans la main de celui qui la recevait. Il aidait ses épouses dans les travaux ménagers. Il rapiéçait ses vêtements, trayait sa chèvre et raccommodait ses chaussures. » Vous imaginez, c'est l'un des chefs de file de l'évangélisme en Inde qui dit ça. Ça n'est pas n'importe qui. William Muir était un prêtre, un ecclésiaste en quelque sorte. C'était un évangéliste. Et un évangéliste érudit, c'est pas n'importe quoi.
Donc très dangereux.
Bien entendu. C'est-à-dire que quand on étudie la biographie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec une certaine quand même intégrité intellectuelle, c'est à cela qu'on ne peut pas arriver ou à une autre conclusion, autre que celle que nous venons d'écouter.
Le prophète Mohammed avec les femmes, Kamal Shekat, alors dans ce même livre, Mohammed, vie du prophète, les enseignements spirituels et contemporains, alors à la 368e page, on peut lire ceci, il avait écouté la voix des femmes de sa société qui souvent vivaient le déni de droit, l'exclusion et les mauvais traitements. La révélation elle-même rappelle cette écoute et cette disponibilité. L'envoyé transmis aux femmes la double exigence de la formation spirituelle et de l'affirmation d'une féminité qui ne soit pas emprisonnée dans le miroir du regard masculin, chose qui a été d'ailleurs perpétuée après par le maître de la Faïda Tijaniya Brahim Nias. Alors, oui. L'envoyé transmis aux femmes la double exigence de la formation spirituelle et de l'affirmation d'une féminité qui ne soit pas emprisonnée dans le miroir du regard masculin ou aliénée au sein des rapports de force ou de séduction malsains. Leur présence dans la société, dans l'espace public et dans l'engagement social, politique, économique et même militaire était une donnée objective que le prophète non seulement n'a jamais niée ni rejetée, mais qu'il a clairement encouragée. À la lumière des enseignements spirituels, il les aida à s'affirmer, à être présentes, à s'exprimer et à revendiquer la vraie liberté du cœur et de la conscience. Elles avaient à la choisir par elles-mêmes, la liberté du cœur et de la conscience, oui. Elles avaient à la choisir par elles-mêmes et à en dessiner les contours pour elle-même, dans la confiance de l'infiniment bon.
Absolument. Et moi, ce qui me tue, c'est que quand je vois des féministes,
c'est ça,
qui n'ont pour modèle qu'une certaine, par exemple Simone de Beauvoir, qui elle-même était une aliénée mentale et joujou entre guillemets de Sartre et de Nelson. Et qui viennent vous dire, oui, Mohamed, là, ben, c'est le rétrograde, le je ne sais quoi. Et malheureusement, vous n'avez rien lu, vous n'avez rien expérimenté, vous n'avez rien vu de votre vie. Comment pouvez-vous dresser un bilan de ce genre sur l'une des personnalités qui ont le plus marqué l'histoire de l'humanité tout entière?
Comment ces chrétiennes... par héritage, hein, parce qu'elles ont fini par se reconvertir au message de l'islam. Comment ont-elles perçu ce message de Sidna Mohammed Rasoulullah, alors que nous, qui sommes nés dans l'islam, on voit Mohammed autrement? Oui. Vous prenez une certaine Meyerowitz ou Souznel ou...
Oui, absolument. Premièrement, ces femmes-là sont des femmes lettrées. Ce sont des femmes qui ont des cerveaux qui fonctionnent normalement.
Qui ont goûté à la liberté du cœur et de la conscience, comme
absolument,
le disait notre auteur, très tôt.
Très très tôt. Le problème, c'est que certaines des nôtres n'ont pas justement fait ce travail sur elles-mêmes, qui n'ont pas connu le doute, qui n'ont pas connu des cerveaux restreints, qui n'ont pas cette capacité à faire la part des choses entre deux idées en contradiction. Vous êtes obnubilé par un certain nombre de personnalités qui ont marqué leur temps, mais avec le temps, quand vous les étudiez, quand vous étudiez leur biographie avec comme cela doit se faire, vous vous rendez compte que vous étiez vraiment, que vous alliez droit dans un mur.
Kamal Shekat, pour terminer cette émission, je pourrais dire que nous tous musulmans, il nous tarde de traduire les enseignements spirituels et universels de l'islam à travers le comportement de celui qui fut et qui demeurera le maître, le guide et l'élu, l'ancrage sécurisant d'ailleurs pour toute personne qui se met sur le chemin de l'excellence. On aspire à ressembler à certaines grandes personnalités du monde d'aujourd'hui, n'est-ce pas, tout en oubliant Mohammed al-Islam, qui devrait être plus visible pour nos enfants et être le véritable modèle et l'exemple. Alors, s'inspirer de ses paroles, de ses silences, de ses actions, mais sans pour autant faire des efforts pour mieux le connaître et maîtriser les détails de sa vie, pour les maturer. Est-ce possible, Kamal Shekat? Comment aimer le prophète sans connaître sa sira, sans connaître le pourquoi de telle ou telle action, de ses propos, oui, de ses paroles?
Je me souviens une fois, il y a eu une attaque contre la personnalité de Mohammed Salah, c'est même via des caricatures, ce qui est récurrent malheureusement. Et je me souviens qu'il y a eu une vague de protestation qui s'est soldée par Anna Mohammed ou bien Anna Ma'a Mohammed, je suis avec Mohammed. Et on le voyait, par exemple, ici, je vous parle d'Alger, hein. Beaucoup avaient justement mis un autocollant sur les pare-brises de leur véhicule. Ana ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ana Muhammad, kulluna Muhammad, et j'en passe. Et ces mêmes personnes conduisaient toutes avec des permis de chasse. et faisait des choses qui normalement auraient dû se solder par une analyse psychologique carrément. Alors toi qui es un criminel dans ta manière de conduire, comment peux-tu oser lever ou brandir cette devise qui dit « je suis avec Mohammed ». Tu es tout sauf avec Mohammed ou adepte de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout notre problème est là. C'est-à-dire que « Allahumma salli wa ala sayyidina Mohammed » et puis oui, je suis musulman, fier d'être musulman, et puis le type, il est à l'étranger, c'est un adepte de Mohammed qui boit de l'alcool. Qui va faire les 400 coups.
Inna Allah ghafurun rahim, kamal shakat.
Et attendez, quand il rentre dans un resto, vous lui présentez un plat dans lequel il y a de la viande, il vous dit, attendez, oh là, la viande c'est halal. Alors, parce que nous, on n'a pas le droit de manger de la viande qui n'a pas été égorgée selon le culte musulman. Et il le dit tout en ayant à la main une bière. Et donc moi, vous savez, j'ai le cerveau qui est à deux doigts d'exploser, de se défragmenter à cause de ce que je suis en train de voir. Être un adepte de Mohammed, c'est essayer de ressembler à Mohammed autant que faire se peut.
Il était d'abord miséricordieux à Mohammed.
Absolument. Et là, il vous était voyez, bon. Vous savez, c'est...
Il respectait ses parents, ses filles, ses sœurs.
Je le disais lors d'un direct que nous avons fait suite à tout ce que notre pays a connu sur les accidents, les feux de forêt, etc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, nous avons des sites ici en Algérie qui sont paradisiaques. Ouais. Et vous allez, il y a des endroits qui sont sauvages, qui sont pratiquement restés sauvages et vers lesquels vous ne pouvez avoir accès que par le biais d'une embarcation par voie maritime. Vous arrivez dans cet endroit sauvage, vierge, et vous trouvez des ordures. Une famille comme vous est venue là, elle a passé un bon moment, et elle est repartie en laissant toutes ses immondices sur place. La ilaha illallah, Muhammad Rasoul.
C'est la faute aux emballages, hein, tous nos produits sont bien emballés. Merci pour ce premier numéro de la saison 2026-2027. On parlera certainement beaucoup des messages du prophète alayhi salatu wasalam, où l'on reviendra certainement sur la prière dans le Murtasar al-Akhdari, mais aussi peut-être qu'il nous faille revenir à la Hijjat al-Wada' Kamal Shakat, parce que c'est des messages qui nous aideraient à affronter l'actualité d'aujourd'hui.
Inch'Allah.
Merci beaucoup à vous, merci de votre fidélité. N'oubliez pas de faire un tour sur x.com et notre page Au cœur de l'Islam, chaîne 3. Au revoir.